quand on a annoncé sur les réseaux sociaux qu'on avait un refil de Cookie Bluff, les filles attendaient devant les portes en pyjama à 8 heures le matin que l'épicerie rouvre pour avoir les pots de pâte à biscuits, puis attendaient pendant 3 heures qu'on en reçoive la palette. On avait installé une palette de pâte à biscuits en plein milieu de l'allée. Ça sortait du congélateur parce qu'on livre congelé. Puis on donnait les pots au monde. Le monde achetait des caisses. Là. C'était vraiment incroyable là, comme sensation là, de dire que c'est un produit qui connaît autant de succès que ça. Là.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 94e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Récemment, sur Hypercroissance, on a reçu des entrepreneurs qui ont bâti des entreprises de grande taille avec un très grand nombre d'employés. Maintenant, la question à se poser est la suivante. A-t-on besoin d'une grande équipe afin de bâtir une entreprise qui croît rapidement? Peut-on prendre des parts de marché importantes tout en gardant une approche lean dans son développement? Mon invité du jour, Sébastien Fizet, président et fondateur de Cookie Bluff et Boba, discute avec nous des techniques qu'il a utilisées afin de bâtir des marques que des centaines de milliers de Québécois ont achetées dans les dernières années. Et tout ça avec seulement une employée. Sans plus attendre, ma discussion avec Sébastien Fizet. Sébastien Fizet, vous êtes président et fondateur de l'entreprise Cookie Bluff, une organisation de pâtes à biscuits lancée en 2018 qui a fait grandement tourner les têtes au cours des dernières années. Et fort de tes apprentissages avec Cookie Bluff, tu as également décidé en juillet dernier de lancer le tout premier breuvage Bubble Tea prêt à boire se nommant Boba. Sébastien Fizet, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci, ça fait plaisir.
Sébastien, en regardant ton parcours, on peut se rendre compte qu'un projet n'attend pas l'autre. J'ai mentionné en intro tes entreprises Cookie Bluff et Boba, mais vous avez également et vous venez tout juste de lancer une nouvelle ligne de produits se nommant Nim Noom. Peux-tu nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui t'a poussé il y a quelques années à te lancer dans le marché alimentaire et de lancer autant de projets?
Écoute, ça va faire un petit peu drôle à dire, mais moi, j'ai fait un bac en relations industrielles étant plus jeune, puis je voulais travailler en ressources humaines. J'avais vraiment une vision idéaliste là, des ressources humaines, là, parce que, dans le fond, les patrons avaient un peu le pouvoir d'embaucher un peu qui voulait. Puis quand je suis arrivé sur le marché du travail, ben vous comprenez que c'était pas ça du tout. Là. Je passais des entrevues, puis les gens nous disaient « Ah, ben tu sais, j'ai 10 autres entrevues cette semaine, fait que tant pis, là, je vais vous rappeler si ça me tente. » Ce n'était pas vraiment la dynamique que je voulais vivre. Puis j'étais profondément malheureux par mon travail, puis je me disais « Ah, ça va être ça ma vie, travailler 8 à 5 à tous les jours, puis devoir rentrer dans un job que j'aime plus ou moins, puis c'est la routine, quoi. Je suis vraiment pas un gars de routine, tu sais. » Fait que un soir j'étais sur ma tablette puis je vois une vidéo sur Facebook d'un cookie shop à New York qui vend de la pâte à biscuits comme des cornets de crème glacée. Puis j'ai dit, c'est la raison pour laquelle ça avait apparu dans mon feed, c'est qu'il y avait plein de Québécois qui disaient hey, on va aller à New York goûter cette pâte à biscuits là. J'étais dit, le monde sont assez fous pour faire 12 heures de route pour aller goûter un cornet de pâte à biscuits. Fait que c'est un peu comme ça que l'idée a commencé.
Puis je l'avais vu, tu l'avais dit à l'œil du dragon, tu avais vu ça à New York, mais c'est assez exceptionnel. Donc, la pâte que vous faites, là, on peut la manger crue, on peut également faire des biscuits avec ça. Parle-nous un petit peu de la sauce secrète, entre parenthèses, de ce produit-là. Pourquoi il y a eu autant de succès, autant de bruit autour de Cookie Bluff?
Ben, je pense que quand on a lancé en 2018, c'était un produit qui n'existait pas du tout sur le marché, puis c'était quand même un produit qui attirait l'attrait les gens depuis qu'ils sont jeunes, ils mangent de la pâte à biscuits, puis on peut pas manger de la pâte à biscuits qui vient de votre cuisine à cause de la farine. Mmh. Les gens pensent beaucoup que c'est les œufs, mais en réalité, c'est la farine le problème, parce que la farine subit pas de traitement entre le champ et votre assiette. Donc, il peut se glisser des bactéries telles le coli puis des choses comme ça. Fait que c'est vraiment important là, d'avoir un traitement sur cette farine-là. Puis nous, on a développé tous les produits Cookie Bluff en laboratoire. un centre de recherche à la Pocatière, qu'eux, ils ont cru au projet. Puis on était vraiment la première au Canada là, à essayer ça. Puis même que je vais toujours me souvenir, parce que quand on s'apprêtait à lancer Cookie Bluff, j'avais des ads de Santé Canada qui disaient de ne pas manger de pâte à biscuits crus. Fait que c'était vraiment comme dans le courant, on peut dire.
Puis, bon, c'est intéressant de te mentionner Pocatière. Donc, parlons-en un petit peu parce que c'est un produit qui est 100% conçu au Québec. Puis, il y a quand même une anecdote assez intéressante, je pense, qui s'est déroulée à votre départ. Donc, je vais être curieux de t'entendre là-dessus. Mais vous aviez lancé l'entreprise, vous aviez fait produire, et corrige-moi si je me trompe, je pense que c'est 4000 boîtes au début. Puis, vous pensiez être capable d'en avoir pour 3 mois de temps. Finalement, ouais. Vous avez lancé ça, puis je pense que ça a pris quelques jours, puis le 3 mois était derrière vous, là.
C'est digne d'un film, là, on peut dire. On avait lancé ça, puis moi, mon frère est gérant dans un IGA, le groupe IGA des sources à Québec. C'est un des plus gros groupes d'IGA au Québec, d'ailleurs, avec des magasins qui font beaucoup de chiffre d'affaires, là, plus qu'un IGA régulier. Puis on avait présenté les Cookie Bluff dans ces magasins-là, puis le directeur a dit « Oh oui, je vais vous donner un coup de main, mais c'est sans trop... c'est parce que mon frère travaillait là depuis longtemps, puis il croyait, mais on se disait « ça va être le fun, puis c'est différent ». Fait que quand on a fait un lancement, dans le fond, nous autres, on était « broke », on n'avait vraiment plus aucune... On n'avait plus une scène. Fallait que ça marche. Je pense que si on n'avait pas connu le succès de Cookie Bluff à ce stade-là, ben, on aurait probablement fait faillite, là, malheureusement. Puis, on avait prévu une production de 4000 pots pour 3 mois, comme tu as bien mentionné. Puis, quand on a lancé, après 2 jours, on avait vendu 2000 pots. Puis, ça a pris 4 jours pour écouler les 4000 pots. Puis, je vais toujours me souvenir parce que quand on a annoncé sur nos réseaux sociaux, on a monté à 5000 abonnés en comme 4 jours. Là, c'était ridicule. Ouais. Quand on a annoncé sur les réseaux sociaux qu'on avait un refil de Cookie Bluff, les filles attendaient devant les portes en pyjama à 8h le matin que l'épicerie rouvre pour avoir les pots de pâte à biscuits, puis attendaient pendant 3 heures qu'on en reçoive la palette. Puis je me trouve, on avait installé une palette de pâte à biscuits en plein milieu de l'allée. Ça sortait du congélateur parce qu'on livre congelé. Puis on donnait les pots au monde. Le monde achetait des caisses. Là, c'était vraiment incroyable là, comme sensation là, de dire que t'as un produit qui connaît autant de succès que ça. Là.
Comment t'expliques ça? Parce que je peux comprendre que le produit, il y en a, ça a été assez innovateur. Donc, tu le disais, les gens voulaient aller jusqu'à New York pour avoir accès à un produit comme ça. T'amènes ça au Québec. Mais là, très rapidement, il y a comme une effervescence de bouche à oreille. Tout le monde en parle. Comment t'expliques là, ce succès-là aussi rapidement?
Ben, je pense vraiment que c'est le timing. Dans le sens qu'il y a beaucoup de produits, surtout en alimentation, qui sont une question de timing au niveau du succès. Timing et l'exécution. Écoute, on a fait un beau lancement, on avait des influenceurs, on était quasiment dans les premiers, il y a 3 ans, à promouvoir des produits alimentaires par des influenceurs. Puis il y a 3 ans, les influenceurs, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. C'était vraiment plus, tu sais, il y avait pas tant de produits que ça. Puis tu sais, quand ils parlaient d'un produit, ben ça faisait réagir. On dirait tellement que c'est un produit qui était prêt à exploser de par tous les commentaires qu'il y avait justement des gens sur les réseaux sociaux par rapport à ce type de produit-là. On dirait que les gens attendaient ça. Quand c'est sorti, puis on avait un brand parfelu un peu, tu sais, on avait quelque chose de différent. Ça demandait juste à exploser, on dirait.
Fait que c'était, c'était le destin là, d'avoir cette vitesse-là. Ben, faut croire que c'est ce que beaucoup de gens espèrent. Vous, c'est arrivé, donc c'est une bonne chose. Puis là, par la suite, parle-nous un petit peu de cette évolution-là. Donc, je faisais quelques recherches. Bon, vous avez fait vos ventes assez rapidement. Vous avez continué cette croissance-là. Et là, j'ai l'impression qu'à travers le temps, il y a des gros joueurs qui se sont intéressés à vous. Donc, dont un, j'ai cru voir, Nestlé, qui en pleine période de COVID, donc il y a à peu près 1 an et demi de ça, il a décidé de faire un partenariat avec vous pour faire un test dans 800 points de vente au Québec. Comment un partenariat avec un géant mondial comme ça arrive? Puis, qu'est-ce qui a occasionné le fait que Nestlé vienne cogner à vos portes?
Ben, je pense que c'est simple. Écoute, Cookie Bluff est différent de par le produit, mais aussi par la façon qu'on fait les choses. On a vraiment créé une énergie autour des produits qui n'est pas typique pour un produit alimentaire. Puis nous, on est toujours à la recherche d'innovation. À toutes les 3 mois, on sort une nouvelle saveur. Donc, à toutes les saisons, on a une saveur qui voit le jour dans Cookie Bluff. Puis, on voulait vraiment frapper un coup de circuit. On voulait avoir quelque chose qui rappelle les souvenirs d'enfance aux gens. Puis, tu sais, Cookie Bluff a été créé un peu ça comme mission. C'est vraiment de se rappeler les souvenirs d'enfance aux gens. Puis, Smarties, pour nous, c'était vraiment un produit. Tu sais, tout le monde se souvient des Smarties, des fameux McFerrero Smarties qu'il y avait avant. Puis, tu sais, je me rappelle de mélanger les couleurs des Smarties, tu sais, quand on était plus jeune. Fait que, on discutait déjà avec Nestlé pour différentes affaires, là, sans trop vraiment mettre rien au sérieux. Puis, maintenant, on a présenté ça, on a dit, écoute, Smarties, Cookie Bluff, c'est quelque chose qui peut intéresser. Puis on a passé à travers le processus qui était très, 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 très complexe, beaucoup plus qu'on l'aurait pensé. Même que je te dirais que c'est pas certain que ce serait quelque chose qui serait à reproduire tellement que c'est complexe. Là. C'est déraisonnable au niveau de la gestion, puis de tout ce que ça demande, puis les approbations en Suisse, puis les. Parce qu'eux autres, ils gèrent leur brand à l'international, puis chaque chose que tu fais, le moindre mot que tu écris sur les réseaux sociaux par rapport au produit, tout doit être approuvé par le bureau chef, que le bureau chef doit envoyer ça au directeur du Canada avec. Tu sais, ça, c'est vraiment plus gros qu'on pense là, au niveau de la gestion. Mais c'était la première fois qu'eux autres faisaient un co-branding avec une compagnie canadienne pour un produit comme ça. Puis ils ont été surpris un petit peu, même je te dirais qu'ils ont été pris de court par le succès qu'on a eu. Ils s'attendaient pas à ce que ça fasse autant de bruit. Et ils ont sous-estimé un peu Cookie Bluff, je peux dire même, au niveau de la distribution puis tout ça. Là. Fait que ça a été un de nos savoirs les plus in, là, je peux dire, le plus gros succès qu'on a eu. Puis on s'en vient vraiment avec quelque chose encore à l'hiver là, cette année. Un gros partenariat avec une compagnie québécoise cette fois-ci. Là.
T'as-tu des anecdotes pour nous un petit peu d'un partenariat comme ça que tu pourrais partager avec l'audience qui, une audience d'entrepreneurs qui nous écoute, peut-être sont en train de penser à des partenariats à l'international. Y a-tu des apprentissages que tu as fait par rapport à ça?
Comme apprentissage, je pourrais dire, c'est surtout, je pense que des fois, on est comme un peu naïf, là, puis on réalise pas à quel point que c'est les gros souvent, là, puis tu sais, je te parle des organisations comme Nestlé, c'est la plus grosse organisation alimentaire au monde, probablement. Là. C'est dans le top 3, sinon. Ils ont des structures énormes, des structures qui sont très difficiles à travailler, puis ça nous amène à dire, faut que tu parles à la bonne personne immédiatement quand tu commences ton projet, sinon ça risque de déraper. Puis je pense que c'est ça qui nous a aidé aussi, c'est qu'on a réussi à parler à quelqu'un qui était quand même très haut placé dans l'organisation rapidement, qui nous a amené à pousser ce partenariat-là sur la bonne track, on peut dire. Mais ça reste que c'est toujours un bien y penser. Tu sais, quand je regarde vraiment le tout avec du recul, ça a été une hyper bonne décision pour mon brand, mais toute l'énergie puis le stress que ça a engendré, ça a été difficile. On a vraiment fait les choses le plus difficilement possible, je peux dire, c'est vraiment de développer des partenariats solides avec nos partenaires. Puis à partir de là, ben arriver à quand on donne une nouvelle saveur, ben créer une exécution en magasin que là, toutes les bannières rentrent la nouvelle saveur. C'est vraiment comme ça là, qu'on a décidé de pousser les choses. Là. C'est vraiment la façon la plus compliquée.
Puis tu veux continuer comme ça? Tu voudrais pas prendre ultimement une approche un petit peu plus hybride?
Écoute, non, parce que on a des partenariats exceptionnels avec nos fournisseurs, avec nos bannières, justement. On a développé des relations qu'on est dans les seuls à avoir. Puis je pense que le fait de ne pas vendre en ligne et de ne pas aller leur chercher des ventes, c'est vraiment une belle façon pour nous de travailler. Puis c'est un mince sacrifice là, pour nous là, de ce côté-là.
Je voudrais parler un petit peu maintenant du nouveau brand que tu as lancé récemment, Boba. Donc, j'ai été capable de voir que tu as fait un partenariat avec une entreprise taïwanaise. Mais corrige-moi si je me trompe, pour faire ce mix-là, ce nouveau produit-là, qui, tu pourras peut-être expliquer un petit peu plus à l'audience, mais ça va être un des premiers bubble tea qu'on va être prêt à boire là, très rapidement. Comment ça se déroule, un partenariat comme ça? Comment tu arrives à pouvoir construire un partenariat du genre?
Écoute, ça, c'est une aventure qui a été très, très exigeant au niveau mentalement, je pourrais dire. Puis c'est un projet qui aurait peut-être jamais dû voir le jour au final parce que le nombre de signaux qu'on a eu pendant notre parcours pour abandonner tellement que c'était difficile puis qu'on arrivait à rien. Il n'y a rien qui fonctionnait dans le sens que ni la production fonctionnait, ni la recherche et développement fonctionnait. Avoir les ingrédients, ça fonctionnait pas. Il n'y a rien qui fonctionnait. Puis c'est un peu la maladie mentale que j'ai, c'est que j'ai de la misère des fois à lâcher puis à abandonner, puis finalement, on a continué, mais nous, ce qu'il nous fallait, en réalité, c'est une bille qui allait avoir une belle résistance à travers le temps dans un liquide. Okay. Comme tu as mentionné, c'est un bubble tea qu'on a développé avec des perles de jus. Donc, c'est une membrane de tapioca qui vient enrober un jus à l'intérieur. Donc, quand tu croques la bille, ça explose en bouche. Le jus explose en bouche.
100 000 bouteilles de boba que vous avez vendues en à peu près un mois et demi. Vous aviez été en rupture de stock après quelques jours seulement pour Cookie Bluff. Comment t'expliques ça, là? C'est quoi le modus operandi pour avoir un produit alimentaire qu'on met dans des points de vente puis que rapidement, ça devient le buzz que tout le monde parle et que tout le monde veut aller se procurer?
Écoute, c'est comme la recette secrète. On dirait qu'on se le fait toujours demander. Puis les gens, des fois, ils m'approchent dans l'alimentaire. Ils disent, comment tu fais? Je dis, ouais, c'est vraiment pas... Il n'y a pas de recette magique, mais on dirait vraiment que notre exécution est parfaite quand on sort des nouveaux produits. On a un réseau qui est incroyable au niveau de la communication, la façon qu'on fait les choses. On dirait vraiment que c'est ça qui fait qu'on a des gros succès à chaque fois qu'on sort un produit alimentaire. Tu sais, même c'est drôle que tu me dises ça parce que je parlais avec un directeur de magasin qui disait, on n'a jamais vu ça, là, des affaires de même. Tu sais, que tu sortes un produit, à chaque fois, le monde capote, puis vous faites déplacer le monde, puis vous avez des ventes instantanées. Ça, c'est vraiment unique. Mais je me suis posé la question aussi, là, tu sais, à me dire, qu'est-ce qui fait qu'on a cette chance-là? Parce que c'est vraiment une chance, là, de dire, ah ben ouais, on sort des trucs, on investit beaucoup d'argent, mais on prend des gros risques, puis Colin, ça marche à chaque fois. Tu sais, c'est vraiment incroyable. Puis la réponse que j'en ai par rapport à ça, c'est vraiment l'exécution, les lancements, comment qu'on approche notre réseau, comment qu'on prépare le lancement, tout ça, toute cette exécution-là, là, c'est ce qui permet le succès qu'on a en épicerie, puis je vois rien d'autre que l'exécution.
Mais peux-tu nous parler un petit peu, c'est quoi cette exécution-là? Est-ce que c'est une présence accrue en ligne, une communauté que vous allez bâtir d'une certaine manière, peut-être des stunts littéralement dans les points de vente, ou est-ce que vous allez faire découvrir votre produit? Ça ressemble à quoi, tout ça?
C'est juste de... Premièrement, le réseau qu'on a avec Cookie Bluff, on a énormément de gens qui suivent Cookie Bluff. Fait que quand on a annoncé, mettons, Boba, ben ça a été annoncé sur Cookie Bluff. Mais ensuite, c'est le réseau d'influenceurs qu'on a depuis 3 ans qui est avec Cookie Bluff. On a une quarantaine d'influenceurs au Québec, dans les plus gros, là, les plus gros noms qu'on peut avoir. Puis c'est pas des gens qu'on rémunère, là. C'est vraiment des gens qui ont hâte d'avoir nos nouveautés, puis qui savent qu'à chaque fois, on repousse les limites. Puis à chaque fois qu'on les contacte, ils sont contents de recevoir nos produits, puis on les livre en personne. C'est vraiment quelque chose qu'on a décidé de faire puis de continuer chez Cookie Bluff, même si ça demande énormément de temps. C'est que, comme là, j'ai un exemple, jeudi, ben on a une livraison puis on les fait tout en personne. On prend le char puis ah ouais, à Montréal, c'est une journée de 1000 km puis on fait chaque maison une après l'autre puis on les livre en personne parce que ça rajoute un côté humain à la business. Ça rajoute une façon différente de présenter un produit que voici ce que j'ai reçu aujourd'hui par la poste. C'est vraiment de créer des relations avec ces gens-là puis de les traiter comme des humains puis comme des gens qui nous aident à monter notre business. T'sais. Puis cette exécution-là pour nous, elle semble fonctionner. Puis on a aussi une belle présence en magasin. On a réussi à faire un partenariat avec la baie de Beauport pour le lancement de Boba. Ils vendent des Boba alcoolisés dans le fond à la plage. T'sais, ils en vendent une centaine par semaine. C'est quand même fou. C'est vraiment. J'ai pas de recette magique, mais clairement qu'on se fait des plans là, puis on essaie de monter ça.
On dit en affaires, Sébastien, que le focus est excessivement important. Donc, vous aviez commencé avec Cookie Bluff, vous avez un certain succès, mais finalement, tu as décidé de littéralement lancer une nouvelle entreprise avec Boba au lieu de concentrer toutes tes énergies sur Cookie Bluff. Qu'est-ce qui explique ça? Parce que, bien entendu, j'imagine que tu as une limite de temps que tu peux mettre dans une journée. Donc, peut-être que ton temps aurait pu être encore mieux investi sur la croissance de Cookie Bluff, l'amener à un autre niveau. Qu'est-ce qui t'a dit qu'il fallait que tu mettes tes énergies sur un autre projet? Est-ce que c'était tellement important à tes yeux que tu t'es dit tu peux pas passer à côté d'une opportunité de la sorte?
Non, écoute, ça va beaucoup plus loin que ça. Quand on a bâti le modèle Cookie Bluff, on a bâti un modèle qui est c'était pas très commun, je pourrais dire. C'est un modèle de sous-traitance. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait est sous-traité. J'ai seulement une employée qui est ma femme, qui est très précieuse justement, qui s'occupe, elle, de l'exécution de tous les lancements, tout ça d'ailleurs. Puis le fait qu'on ait quelqu'un qui s'occupe de la production, quelqu'un qui s'occupe des ventes sur le terrain, quelqu'un qui s'occupe du marketing, quelqu'un qui s'occupe, ben ça fait que moi, si je veux mettre 10 heures dans Cookie Bluff une semaine, là, ben je peux le faire. Parce que tout l'engrenage est tellement bien rodé que tout le monde travaille et que j'ai pas besoin du tout de m'occuper de rien. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je m'occupe du développement de produits, du marketing, puis de la promotion de la marque, mais surtout justement à la comment innover puis bâtir des nouveaux produits. Puis c'est justement ce modèle d'affaires-là qui m'a permis de dire j'ai du temps à me concentrer sur d'autres choses. C'est ce modèle d'affaires-là qui m'a permis de découvrir les bubble tea puis de me lancer là-dedans. Parce que j'avais du temps, justement, puis je prends le temps de voyager. Écoute, je sais pas si je dois dire ça, mais on n'a jamais autant voyagé depuis la pandémie. Là, on était 6 mois en Floride, on était au Mexique, on va partout pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis après ça, on ramène les idées, puis on est beaucoup plus créatif, on travaille de chez nous dans notre salon, puis dans le jour, on va se promener, on va voir un peu. Puis c'est comme ça qui fait qu'on innove comme ça, puis qu'on a du succès, c'est parce qu'on n'est pas encloisonné dans un univers qui fait tu sais que tu t'es amené, tu sais plus quoi faire, t'es comme pris un peu dans ta routine puis dans ta façon de penser. Mais nous, on sort tout le temps de notre zone de confort, on se met dans des situations qu'on n'est pas habitué, ça nous amène toujours à avoir des idées innovatrices puis à se dépasser.
Donc, c'est une structure qui est excessivement, puis pardonnez-moi l'anglicisme, lean que t'as présentement, ouais. C'est-à-dire que tout est fait avec des gens qui sont à l'externe, littéralement, de ton entreprise. Ça te fait pas peur, ça, des fois, de te dire, hein, certains actifs de mon entreprise, je le possède pas directement. Est-ce que ça te fait peur un peu ou d'un autre côté, t'es assez à l'aise avec ça?
Écoute, ça me fait vraiment pas peur. C'est vraiment, tout est dans la relation que tu construis parce qu'au final, ça va plus loin que juste de dire, OK, bon, ben, je sous-attends, c'est quelle est la relation que tu as avec ces gens-là. Puis moi, j'ai des relations qui sont exceptionnelles avec mes partenaires, comme si c'était à eux la business. Tu sais, c'est vraiment des relations qui vont au-delà de juste un co-packing. C'est ça que je bâtis dans mes affaires. C'est que pour moi, la relation est aussi importante que la fabrication. Puis en bâtissant une relation qui est saine, que tu impliques dans tes projets de développement, ben, tu vas avoir les meilleurs partenaires que tu peux avoir, encore mieux que si tu avais ta propre usine. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on. C'est pour ça que je te dis, moi, les gens qui m'approchent dans l'alimentation, c'est genre, j'aimerais ça me fabriquer, je suis là, ouais, non, pas sûr. C'est pas nécessairement la meilleure option, surtout avec l'investissement que ça demande. C'est sûr qu'au final, on laisse quelques pourcentages sur la table, mais quand tu es en affaires, la liberté, ça a un prix qui ne se monétise pas.
C'est sûr.
La liberté qu'on a de dire, on peut être à Bali demain matin à travailler, cette liberté-là, on l'a choisi, puis au final, quand on regarde vraiment nos chiffres, ça, je suis pas mal sûr qu'on est encore plus rentable que si on avait notre propre usine au final à cause du modèle d'affaires qu'on a bâti.
Ça, c'est quelque chose que tu veux continuer à travers les années?
Clairement, là. Puis j'ai fait pareil avec Boba. J'ai fait un petit investissement aussi pour les aider à s'équiper. Fait que c'est vraiment tout dans la relation et la façon de voir les choses. Je pense que c'est super important.
Puis toi, pendant ce temps-là, tu mets ton temps sur les relations publiques. Parce que s'il y a une des choses que tu es très bon et que va falloir que tu nous expliques un petit peu aujourd'hui, c'est que tu es capable de travailler avec les médias constamment. Il y a beaucoup d'articles qui sont sortis sur tes différents produits, donc Cookie Bluff, Boba, on en a parlé également, de votre partenariat avec Nestlé, il y a eu un autre article dans les journaux. Vous avez fait une apparition à l'œil du dragon et encore et encore et encore. Est-ce que ça fait partie un petit peu, encore une fois, de ta stratégie, de savoir comment travailler avec ces différents médias-là pour qu'ils parlent de vous, de parler également d'influenceurs? Donc, j'imagine que ça, c'est peut-être là que tu mets ton temps, là, présentement.
C'est exactement ça. C'est vraiment là-dedans, moi, ma grande force en tant qu'entrepreneur. Puis, je me suis jamais promu, moi, à travers le produit. Il y a beaucoup de gens qui font ça à travers leur brand, tu sais, qui se mettent, c'est comme si c'était eux le produit. Moi, le produit, si j'existe pas, il existe. Puis, ça a toujours été quelque chose qui était super important pour moi. Puis oui, on a des très belles relations avec certains médias, dont North City, le Journal de Québec, le TVA Nouvelle. On a eu un live à TVA, justement, à la sortie de Boba. Parce qu'on est super humain et sympathique. Puis on a appris à travailler avec ces gens-là. Puis ils savent, on les déçoit pas. C'est quand on les dérange, entre parenthèses, pour leur parler d'un produit, ils savent qu'on a quelque chose, puis qu'on a quelque chose de spécial, puis qu'on a quelque chose d'honneur de ça, puis que ça fait déjà parler. Puis ils sont pas en retard sa nouvelle ou quoi que ce soit. Je suis capable de négocier, bon, mais regarde, tu vas avoir l'exclusivité sur cette nouvelle-là ou telle chose comme ça. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on travaille les partenariats, là, les relations, encore une fois. Moi, je suis vraiment quelqu'un de feeling dans la vie. Puis c'est comme ça que je pense que ce couple-là fait du succès aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu le bon feeling sur les bonnes personnes. Puis c'est la même affaire avec les relations, que ce soit les influenceurs ou les médias. Là.
Ça ressemble à quoi un petit peu l'avenir que tu vois là pour tes différentes organisations? Là, on parlait un petit peu plus tôt en début de podcast. Il y a un nouveau produit, je pense, qui va voir le jour très bientôt.
Nimnum. C'est déjà fait, oui.
C'est lancé bon au moment où on se parle. Donc, il y a Boba, il y a également Cookie Bluff. Oh, on le voit présentement à l'écran. Merveilleux. Mais ça, c'est dans les supermarchés présentement ou c'est dans les jours qui y arrivent, là?
Exact. On a lancé mardi passé, justement. Okay. Fait que c'est très, très nouveau. Ça fait un an qu'on travaille ce produit-là. Puis ça a été très difficile avec la pénurie de main-d'œuvre puis le COVID. Et on voulait faire quelque chose d'unique. Puis on voulait pas encore quelque chose de différent. Puis, c'est qu'on a négocié au départ avec IGA, qui est la bannière sur base. Ils nous disaient, ah ouais, ça nous intéresse d'avoir une miette de pâte à biscuits, mais on veut pas que ça soit un cookie bluff emballé différemment.
Ouais.
Ça, c'est la crainte que beaucoup de gens avaient. Puis moi, j'avais fait la promesse que ça serait vraiment un produit qui serait différent, puis que tant au niveau du goût, tant au niveau du brand, on serait à quelque part de différent pour pas que les gens y aillent, ils disent, ah, ben, c'est la même chose, tu sais. Puis on est arrivé avec l'idée des Nimnums. Ça a coûté très, très cher en développement de marque, parce qu'on a créé un personnage en trois dimensions qui vient rentrer dans l'univers de Cookie Bluff avec un nouveau nom. Le sac, comme tu as vu, c'est vraiment très, très dynamique. Ouais. Puis, on a créé tout cet univers-là de Nimnums, le produit. Puis on est allé encore plus loin. On a créé la miette, elle est en forme de nuage, dans les sacs. Fait qu'on pousse vraiment le branding encore plus loin. La miette, elle a la même forme que le personnage. Fait que, tu sais, c'est vraiment créé tout cet univers-là. Ça a été beaucoup d'ouvrages. Mais l'avenir est vraiment pour nous présentement dans les Nimnums. C'est un produit qui est un petit peu moins cher qu'un Cookie Bluff. On vend à 6,49 présentement pour quand même un gros sac. Puis on n'a pas de compétition du tout. Là. La seule compétition qu'on a, c'est Ben & Jerry dans le congélateur. Puis nous, on a développé un produit qui est réfrigéré. Fait que c'est quelque chose de hyper soft en bouche. C'est un peu addictif, on peut dire. Là. Puis on a notre première saveur qui est vegan, 100% huile de coco, sans huile de palme. Fait que c'est vraiment un produit qui est exceptionnel. Puis c'est vraiment ça la vision de Cookie Bluff présentement. C'est que on a Cookie Bluff, on a été stoppé par le développement international. On avait des belles opportunités aux États-Unis. Tout est tombé à l'eau avec le COVID. Puis à un moment donné, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, OK, ben là, mon chef d'affaires, il est pas en croissance. Tu sais, je suis pogné avec les mêmes points de vente, avec les mêmes produits. Puis on a vécu une croissance inversée un peu, là, dans le sens qu'on a connu énormément de ventes au début, puis après ça, ça allait stagner. Tu sais, je veux dire, après ça, on s'est ramassé avec nos ventes régulières. Fait que c'est-à-dire, comment je fais pour atteindre les chiffres du départ? Ben, c'était par l'international. Tu sais. Puis quand tout a été stoppé, je me suis posé puis je me suis questionné comment je fais maintenant pour arriver à faire croître mon brand. Puis on s'est dit, regarde, on est déjà très, très fort dans le marché. On a des relations qui sont exceptionnelles avec nos partenaires. Pourquoi ne pas lancer des nouveaux produits? Puis l'Enemnum, c'est seulement le premier d'une lignée là, qui s'en vient pour Cookie Bluff. Là.
Donc, plus de produits année après année, c'est ce qu'on s'attend un petit peu là, de votre côté.
C'est vraiment 100% de mon temps présentement qui est là-dedans, le développement de produits, l'innovation. On est en train de travailler un gros partenariat avec un géant québécois. Il y a des choses qui s'en viennent, là. C'est des gros mots pour nous. Moi, je suis toujours en ligne. Comme j'ai fait avec Boba, tu te mets ton entreprise à risque pour dire que tu as un rêve encore plus grand. Puis à date, pour moi, ça va payer.
Puis, j'aurais des petites questions personnelles pour toi, Sébastien. Donc, souvent, en entrepreneuriat, on essaie de s'éduquer le mieux qu'on peut. Tu as parlé un petit peu d'être en ligne, tu prends des risques, tout ça. Est-ce que tu lis? Est-ce que tu fais de la lecture d'affaires pour te garder un petit peu au meilleur des connaissances, regarder ce que les autres personnes, peut-être dans l'alimentaire, ont fait avant toi?
Pas du tout. Jamais. La meilleure raison que je peux donner pour ça, c'est que quand on a lancé Cookie Bluff, il n'y a personne qui nous disait qu'on allait réussir. Tout le monde du milieu alimentaire nous disait que c'était impossible ce qu'on faisait puis que c'était complètement stupide. Puis comme tu peux voir, on fait les choses tellement différentes des autres. C'est important pour moi de garder le focus sur qu'est-ce que j'ai en tête et ne pas avoir de bruit autour sur qu'est-ce que les gens me disent, que c'est possible ou pas. Si moi, je crois que c'est possible, je le fais puis ça fonctionne. Fait que je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai décidé de poursuivre mon aventure dans l'alimentation. Je le sais à quel point c'est difficile. C'est un domaine, c'est très, très, très compétitif. Tu joues tout le temps avec des géants, tu te bats contre des géants comme Pillsbury, des compagnies comme ça. Par contre, pour moi, il n'y a jamais rien qui est impossible. Puis aujourd'hui, je lance des produits que jamais personne n'aurait été capable de mettre sur le marché. Fait que j'essaie de m'éviter le bruit. Puis moi, je préfère voyager pour m'inspirer puis vraiment me garder grounded, on peut dire, puis voir un peu. OK, ben si ça se fait aux États-Unis, ça a l'air populaire, ben est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire au Canada? D'ailleurs, mon plus gros projet que je travaille présentement, c'est un produit qui vient des États-Unis.
C'est intéressant, c'est rare que j'entende des réponses comme ça sur le podcast.
Je m'excuse.
Non. Au contraire, ça va donner des idées aux gens. Puis dans ce cas-là, si tu ne lis pas de livre, est-ce que j'assume que c'est la même chose avec les podcasts? Est-ce que tu en écoutes un peu ou pas du tout?
Ben j'en écoute un petit peu, surtout quand c'est mes amis là qui font. Je suis très ami avec justement le William de Case Me là, qui a les caisses de téléphone. Puis j'aime tellement ça discuter justement avec des entrepreneurs, puis jaser, puis être impliqué dans la conversation. Mais j'essaie vraiment d'être déconnecté de ce qui se passe dans les affaires, puis me faire ma propre opinion. Puis surtout que la situation actuelle, là, il n'y a pas beaucoup de positifs, là, c'est top un peu. Fait que je préfère vraiment là, m'enligner puis dire, regarde, je pense que je devrais le faire comme ça. Puis ça fait vraiment drôle à dire, mais je me suis pas trompé encore. T'sais, après 3 ans à lancer plein de produits, prendre des gros risques, développer des choses, des innovations, mais Colin, on s'est pas trompé. Fait que je me dis, on suit un modèle qui fonctionne bien pour l'instant. Puis oui, il est arrivé des erreurs dans le passé. On a eu des pertes financières énormes sur une saveur parce qu'elle n'a pas fonctionné. Ça peut arriver malheureusement. Mais aujourd'hui, je dirige l'entreprise avec mon feeling puis avec l'expérience que j'ai acquise. Puis je peux dire que l'expérience que j'ai acquise, comme si j'avais 25 ans d'expérience alimentaire en arrière de la cravate parce que je travaille avec les plus gros, je travaille avec Walmart, je travaille avec Sobeys au National, je travaille avec toutes les bannières canadiennes. Fait que tu sais, j'y connais tout.
Ben c'est clair que ça doit aider tout ça. Puis je terminerai un petit peu. Peux-tu nous dire ça ressemble à quoi? La routine de travail avant, pendant et après pour Sébastien? Est-ce que tu commences tôt le matin? Est-ce que tu termines tard le soir? Est-ce qu'au contraire, tu travailles peut-être un certain nombre d'heures spécifiques dans la journée pour garder ta créativité élevée?
C'est vraiment je te dirais que c'est tenté, on est en lancement. Fait que c'est comme je me réveille puis je suis quelqu'un qui commence direct quand je me lève. Là, fait que souvent je commence par 6h30. Puis je vais souvent arrêter de travailler vraiment physiquement à l'ordinateur quand même tôt en après-midi. Puis ça fait vraiment drôle à dire, mais je travaille sur mon divan avec mon chien. Fait que j'ai un gros setup dans mon salon. Puis je travaille sur mon divan avec mon chien. Puis je fais mes affaires, je prends beaucoup d'appels. Puis en réalité, je travaille comme 24/24, les courriels, ça n'arrête jamais, même le soir. Puis je les prends toujours, là, je réponds toujours en 2 minutes. Fait que c'est plus ça, la plus grosse partie de mon travail, mais c'est j'ai pas de routine du tout, aucune.
Ça varie beaucoup.
Oui, c'est important.
Je pense que tout le monde doit trouver un petit peu qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Il y a des gens sur le podcast, c'est soit qui ont une routine militaire, il y en a d'autres que c'est un peu comme toi, ça varie au jour le jour. On dirait que chaque personne doit trouver un petit peu ce qui est le mieux pour eux. Puis, je serais curieux, Sébastien, si on va en apprendre un petit peu plus sur toi, sur les différents produits, c'est où le meilleur endroit pour en apprendre davantage sur vous?
Sur moi, il n'y a pas vraiment de place parce que je me promouvois pas beaucoup, puis même sur Instagram, j'ai même pas de compte Instagram personnel, là, fait que je suis plus underground, on peut dire. Mais c'est sûr que si vous suivez la page de Cookie Bluff, il y a toutes nos nouveautés sont là, tout ce qu'on fait, c'est là. On a aussi une apparition dans Dragon's Den qui va bientôt apparaître en octobre, là, en Toronto. Fait qu'on a vraiment, on n'arrête pas. Puis s'il y a des gens qui ont des questions, quoi que ce soit, ils peuvent toujours nous écrire sur l'info. Puis c'est moi qui prends les courriels, ça me fait plaisir. Là, si vous êtes dans l'alimentation ou vous avez un projet ou que vous avez un rêve de faire quelque chose dans l'alimentaire, ben ça me fait plaisir de vous aider. Je suis déjà ambassadeur pour Mycelium à Québec qui aide les entreprises alimentaires à se développer. Je donne des rencontres là-bas. Puis on a aussi une agence à l'interne là, pour aider au niveau marketing puis tout ça. Fait qu'on est capable de vous aider puis vous supporter dans un milieu qui est quand même très difficile.
Merveilleux. Ben Sébastien, je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Ça a été très fascinant parce que c'est un parcours qui est très différent des autres que j'ai été capable d'interviewer dans les derniers mois, dans les dernières années. Donc, c'est toujours intéressant de voir que plusieurs types d'entreprises possibles, il y a plusieurs types de directions qu'on est capable de prendre, qu'on dirige des organisations. Donc, chapeau à ce que vous faites. Félicitations pour la belle croissance, le lancement de produits. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Les entrepreneurs comme Sébastien Fissé et Caroline Brousseau, qui étaient avec nous lors de l'épisode 30, vont toujours grandement me fasciner. Arriver à bâtir des entreprises en croissance accélérée en ayant une toute petite équipe relève d'une créativité assez forte ainsi que d'une facilité à déléguer. J'ai également l'impression que ces modèles d'affaires vont continuer à être très populaires. Également, continuez de m'ajouter sur LinkedIn. J'adore discuter avec vous et plus souvent qu'autrement, vous me donnez des super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.